Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, pour nous faire du bien, nous délivrer ses meilleurs conseils pour notre bien-être. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, on passe au programme du jour. Aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la maladie de Parkinson qui touche un peu moins de 200 000 personnes en France. Alors, quelle est la prise en charge actuelle pour ces patients? Quelles sont aussi les perspectives dans l'avenir pour améliorer les choses? De nombreux travaux sont en cours pour essayer de freiner la pathologie, voire même peut-être un jour de la guérir. Il faut garder espoir. Et bien, pour en parler de tout cela, nous recevrons dans ce studio le professeur Philippe Damier. Il est neurologue au CHU de Nantes et président du comité scientifique de l'association France Parkinson. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous ferons un zoom cet après-midi sur le psoriasis. Savez-vous à quoi ressemblent sur la peau ces lésions liées à cette maladie? Savez-vous qu'il y a des nouveaux traitements, des biothérapies très efficaces pour les formes les plus graves? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une question que l'on pose parfois, nous les adultes, les jeunes d'aujourd'hui. Sont-ils réellement plus précoces en matière de sexualité?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou que vous nous envoyez aussi via les réseaux sociaux. C'est le cas pour la question qu'on va prendre dans ce début d'émission. C'est une question qui nous a été écrite par Michael. Il nous demande la chose suivante. Mes parents m'ont conseillé de rajouter du bicarbonate de sodium en poudre quand je me brosse les dents pour avoir les dents blanches. Est-ce vraiment efficace? Alors pour vous répondre, Michael, on a posé votre question au docteur Edmond Binas, il est chirurgien dentiste, on écoute son explication.
Pour le brossage des dents, le bicarbonate de sodium n'a pas d'action blanchissante du tout. En fait, c'est un faux ami parce qu'il agit comme un abrasif. C'est-à-dire ça donne une illusion immédiate de blanchiment, mais on l'obtient par l'abrasion de l'émail, ce qui le rend rugueux. Et c'est exactement l'inverse de ce que cherchent à faire les dentifrices, qui cherchent plutôt à rendre l'émail lisse pour que les colorants alimentaires ne viennent pas s'accrocher dessus. Et avec le bicarbonate de sodium, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on rend l'émail rugueux, les colorants alimentaires se déposent de plus en plus vite et on a tendance à l'utiliser de plus en plus. Et moyennant quoi, on accélère l'usure de la dent. Et on aggrave le problème. Cela peut même provoquer à la longue ce qu'on appelle des mylolyses, c'est-à-dire une usure de la dent au niveau du collet, c'est-à-dire à la jonction entre la gencive et la dent, et ce qui rend les dents extrêmement sensibles. En réalité, la meilleure chose à faire pour avoir les dents blanches et des gencives saines, c'est d'aller voir un chirurgien dentiste.
C'était donc le docteur Binas au micro de Benjamin Lévesque. À présent, Jimmy, on va prendre une autre question d'auditeur. Elle est pour vous. C'est une auditrice. D'ailleurs, c'est Marjorie. Elle a 37 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour docteur Mohamed. Voilà, on voit en ce moment que le vaccin contre la Covid est en train d'être administré. Mais j'ai vu plein de photos sur les réseaux sociaux de personnes et de médecins se faisant piquer sur le bras ou même parfois sur la fesse. Est-ce que ça change quelque chose? Et je voulais savoir si c'était un vaccin facile à administrer et est-ce qu'il pourrait être fait par mon pharmacien. Voilà, merci, bon après-midi.
Alors Jimmy, l'aile ou la cuisse, le bras ou la fesse, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que finalement, ça importe d'ailleurs la zone où on pique ce vaccin?
Oui, évidemment, le vaccin notamment de Pfizer a été conçu pour être réalisé en intramusculaire. Vous avez deux techniques d'injection, soit en sous-cutané ou en intramusculaire. La plupart des vaccins doivent se faire en intramusculaire. Certains peuvent se faire en sous-cutané, comme le vaccin rubéon, auréole, rougeole chez les enfants. Mais pour Pfizer, il faut absolument que ce soit en intramusculaire. Souvent, on fait ça dans le bras, dans la région du deltoïde, le muscle. On peut faire ça dans la fesse.
Ah oui, donc les photos sur la fesse, c'était bon aussi, à partir du moment où il y a des muscles. Quoi.
Alors oui et non, mais le problème, c'est que la fesse contient aussi du tissu graisseux. Vous le savez, Mélanie.
Non.
Et donc, avec les aiguilles qu'on dispose, l'aiguille peut être trop courte et ne pas injecter le produit au niveau de la fesse.
Oui,
et donc, le risque principal, c'est d'avoir un vaccin moins efficace.
Ah, oui.
Chez les enfants, on vaccine au niveau de la cuisse, sur le côté, puisqu'on sait qu'il y a une région musculaire, jamais dans la fesse chez les enfants, puisque ça peut entraîner une paralysie du nerf sciatique.
On apprend
donc la région à privilégier, c'est le deltoïde, c'est dans le bras.
D'accord. En revanche, je crois que les premiers jours durant lesquels on a vacciné, il y a eu quand même un petit quiproquo sur la façon de le faire, de la faire cette injection, et même sur les aiguilles distribuées pour le faire. Parce que vous l'avez dit, il y a du sous-cutané, il y a
alors,
du muscle.
Les images qu'on a pu voir, c'est celles où on va faire une sous-cutanée, on va pincer la peau et mettre l'aiguille à 45 degrés pour injecter dans le tissu sous-cutané sans sans aller plus profondément. Or,
ça, il
on
faut
veut
pas
aller...
le faire.
Il ne faut pas le faire pour le vaccin Pfizer. Il faut que ce soit en intramusculaire. Donc, il faut mettre l'aiguille à 90 degrés, perpendiculaire, sans toucher la peau. Et on enfonce directement et on atteint le muscle. L'erreur a vite été corrigée. On a vu ça, effectivement, un petit moment de flottement pendant quelques jours.
Quelques jours, mais c'est réglé. Alors, une fois qu'on a le bon manuel pour bien utiliser ce vaccin, est-ce que c'est un geste compliqué de piquer alors, ce vaccin? Oui, on parle de celui-ci. Donc, ce vaccin, les infirmières le font, bien sûr, les médecins, évidemment. Mais est-ce que les pharmaciens, par exemple, pourraient le faire? Ils vaccinent, par exemple, contre la grippe. Donc, il n'y a pas de raison.
Vaccinent, ouais.
En tout cas, ceux qui sont formés à la vaccination, il n'y a
évidemment,
aucun souci.
On avait un dentiste. Les dentistes pourraient aussi vacciner. Tout professionnel de santé, honnêtement,
c'est pas un geste compliqué.
Les bidons, ouais. On va pas non plus.
Ah, bidon, carrément.
C'est pas très technique. De faire un vaccin avec un peu de formation, on peut évidemment élargir la population qu'on pourra vacciner. Encore faut-il avoir des vaccins et le problème est plutôt là. Ce n'est pas les professionnels, c'est plutôt les moyens techniques.
J'allais vous le dire, on en est où? On a passé la cinquième, ça y est, là on va plus vite en France. Je sais que vous ralliez la semaine dernière.
Il a dit que c'est un diesel, il faut du temps. On est à moins de 500 000 personnes vaccinées, 57 000 personnes vaccinées en 24 heures. On va passer la seconde d'ici quelques temps, mais en tout cas, ça n'évitera pas une troisième vague. Soyez prudents, respectons encore quelques temps les gestes barrières.
Et ceux qui le peuvent, surtout, faites-vous vacciner. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Marjorie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes, qui vient tout nous expliquer sur la maladie de Parkinson. Ça va être passionnant. Alors, restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, professeur Philippe Damier. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes neurologue au CHU de Nantes et président du comité scientifique de l'association France Parkinson. Et justement, c'est la maladie dont on va parler évidemment aujourd'hui. La maladie de Parkinson, c'est pour avoir une idée, combien de patients en France à peu près?
Oui, on estime un peu moins de 200 000 patients en France. Oui.
Et c'est un chiffre qui est stable ou on a de plus en plus de malades atteints de cette pathologie?
Alors ben avec le vieillissement de la population, on a forcément plus de patients maintenant. Mais on
et
a
on
pas
en
l'impression...
aura de plus en plus.
Voilà,
ouais.
On en aura de plus en plus, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait un plus grand nombre de cas par âge de population.
Alors justement, et donc quel âge en moyenne ces patients? En tout cas, la maladie en général, peut-être qu'évidemment il y a des exceptions, elle démarre dans quelle tranche d'âge?
Alors, en moyenne, c'est autour de 70 ans, mais on a quand même 20%, ce qui n'est pas négligeable, qui débute avant 65 ans.
Ça peut être à quel âge, par exemple, le plus jeune que vous ayez eu à prendre en charge?
J'ai même eu, c'est exceptionnel des enfants, mais par contre, avant 30 ans, on peut avoir quelques formes, qui généralement sont des formes génétiques, là, dans ces cas-là.
J'ai l'impression que c'est plus une maladie d'hommes, qu'il y a très peu de femmes qui sont touchées. Est-ce que je me trompe ou finalement c'est peut-être le recrutement?
Dans les cas médiatisés, en tout cas, il y a eu quelques acteurs.
Je pense qu'il y a un biais. Ouais. Mais il y a effectivement un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. Mais on est sur un rapport de 1,2 hommes pour une femme. Donc c'est un peu plus, mais pas... Voilà.
Alors, quelles sont les causes de l'apparition de cette maladie? Je crois qu'il y a pas mal de zones d'ombre encore. Hein.
Oui, il y a encore pas mal d'inconnus. Mais même si on a bien progressé ces dernières années, bon, on sait que dans... à peu près 10 à 15% des cas, la cause peut être d'origine génétique, avec une mutation dans un seul gène qui peut permettre d'entraîner la maladie.
C'est les cas donc, que vous citiez juste avant, par exemple un patient de 20 ans ou 30 ans, c'est souvent ce cas-là.
Souvent, il y a une cause génétique qu'on va identifier ou qu'on peut identifier. Et puis, après, il y a des facteurs environnementaux qui sont suspects. Et les principaux suspects, c'est les pesticides. Hein. On pense que pesticides, insecticides... On sait sur des modèles expérimentaux qui sont toxiques et on a des arguments épidémiologiques pour penser qu'il y a un peu plus de cas chez des agriculteurs qui ont été exposés à ce type de produit.
Et sur la part génétique héréditaire, ça veut dire que si vous identifiez un gène, est-ce qu'on va faire une enquête et on va chercher ce gène, notamment chez les descendants, pour savoir s'ils sont à risque, même si malheureusement...
Ah oui, si mon père a Parkinson, par exemple, est-ce que je peux me faire tester?
Alors, comme toujours, il y a deux types d'hérédité. Il y a une hérédité qu'on dit dominante, qui va se transmettre de génération en génération. Donc là, on va voir des cas chez les ascendants, chez ses parents, grands-parents, sachant que ce n'est pas non plus systématique, même quand on a la mutation, donc c'est compliqué. Dans ces cas-là, on peut proposer un diagnostic au stade génétique, avant qu'il y ait tout symptôme. Après, aujourd'hui, ça n'a pas d'impact thérapeutique, donc ça n'a pas énormément d'intérêt pour le patient. Et puis, dans l'autre moitié des cas, c'est une hérédité qu'on dit récessive, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît qu'à une seule génération, puisqu'il faut que chacun des parents ait le gène anormal, mais que quand on a un seul exemplaire du gène anormal, on ne fait pas la maladie. D'accord. Donc, c'est une maladie qu'on voit apparaître chez les frères et sœurs, mais eux-mêmes ne les transmettent pas et on ne voit pas d'autres cas dans la famille.
D'accord. Vous parlez de l'exposition aux pesticides qui est donc montrée du doigt. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il y a des métiers comme les agriculteurs, par exemple, où c'est surreprésenté cette maladie?
Oui, elle est représentée. C'est toujours très difficile, ces études épidémiologiques, pour identifier les facteurs de risque, mais les arguments sont suffisamment forts pour que certains agriculteurs ont pu voir la maladie reconnue comme maladie professionnelle. Oui.
Et c'est une maladie qu'on a découvert récemment. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire de la maladie de Parkinson? Est-ce que c'est si vieux que ça ou pas? Ou ça a toujours existé peut-être?
Oui, alors on pense qu'elle est très très ancienne puisqu'on en a déjà des descriptions dans l'Égypte ancienne.
Ah oui, ça remonte loin.
Même ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des descriptions de traitements à base de plantes et ces plantes contiennent des constituants qu'on sait être actif dans cette maladie. Donc,
ils étaient forts, voilà. Les Égyptiens, Jimmy, ouais. Finalement, vos origines, on voit
c'est
que...
C'est pas si mal, et pourtant, il n'y avait pas de pesticides dans l'Égypte ancienne, donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres facteurs encore.
Tout à fait. Il y a d'autres facteurs que juste les
qui
pesticides.
Qui restent à explorer encore, hein, c'est ça. On a des pistes, justement, sur certaines explications, le microbiote peut-être, non? Enfin, je sais
non,
pas.
Non, alors après, c'est un peu comme dans toutes les maladies, c'est-à-dire qu'on a des facteurs génétiques de prédisposition, et on commence à en identifier un certain nombre, et des facteurs environnementaux, et si on a la bonne formule, eh bien, on développe la maladie, sinon on en développe une autre.
Et justement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un malade atteint de la maladie de Parkinson?
Voilà, alors le cœur de la maladie, c'est une toute petite population de cellules, hein, vous savez qu'on a presque 100 milliards de cellules nerveuses, et c'est une population ridicule, c'est 500 000 cellules, c'est ridicule, qui ont une propriété particulière, c'est de fabriquer une molécule particulière qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine, elle est très importante pour nous permettre de réaliser les gestes qu'on a appris au quotidien pour toute notre gestuelle, parler, manger, marcher, etc.
Ces cellules, elles meurent, il leur arrive quoi?
Ces cellules, elles vieillissent plus vite qu'elles ne devraient et du coup, les patients ne vont plus avoir assez de dopamine dans leur cerveau et c'est ça qui va expliquer les symptômes.
C'est très clair. Professeur Damy, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur la maladie de Parkinson aujourd'hui. Quels sont les premiers signes de cette pathologie qui doivent alerter? Qui consulter? Comment se déroule? Comment confirme-t-on le diagnostic? On va vous expliquer tout cela à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Sans rendez-vous 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Bien évidemment, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le professeur Philippe Damier. Vous êtes neurologue au CHU de Nantes et président du comité scientifique de l'association France Parkinson. Alors on va passer au diagnostic de cette maladie, professeur. Quels sont les premiers signes finalement qui apparaissent? Est-ce que certains, peut-être d'ailleurs comme d'autres pathologies neurodégénératives, pourraient survenir très tôt, bien avant qu'on diagnostique cette pathologie?
C'est vrai, quand on pense maladie de Parkinson, on pense souvent tremblement. Alors ça peut être effectivement le premier symptôme. Généralement, le patient y pense et vient nous consulter. Mais dans un grand nombre de cas, ce n'est pas le tremblement. Hein, c'est plutôt on a vu que la dopamine était importante pour la réalisation des gestes. Donc c'est plutôt une difficulté gestuelle, une difficulté à écrire, une difficulté à faire certains gestes communs, comme se brosser les dents, ou une gêne à la marche... Parfois une symptomatologie douloureuse, un peu trompeuse, une douleur d'épaule, une douleur de hanche. Ah oui. Donc pas mal de circonstances de diagnostic trompeuses parfois.
Est-ce que ce n'est pas aussi des patients qui peuvent être un peu constipés, des troubles du transit peuvent précéder l'apparition de la maladie ou pas tout à fait?
Voilà, alors ça c'est un champ assez important dans toutes les maladies neurodégénératives. On essaie de trouver des petits signes précurseurs de la maladie avant qu'il y ait les signes moteurs qui sont le cœur de la maladie. Il peut y avoir effectivement de la constipation, mais bon, la constipation, ce n'est pas très spécifique. Donc,
on va faire peur à tous les gens qui ont des problèmes de constipation, qui nous écoutent.
Ce n'est pas forcément Parkinson, mais si on prend une population de gens constipés, on va trouver un peu plus de parkinsoniens que des gens non constipés. Après, il y a d'autres troubles, c'est une perte de l'olfaction, une perte de l'odorat.
Alors, rien à voir avec le Covid, là, c'est différent, ça aussi, c'est un signe du Covid.
Une perte d'odorat que les gens ne remarquent pas toujours.
Ils sentent un peu moins bien qu'avant.
Oui, ils ont l'impression d'un peu moins bien sentir, d'avoir eu un goût qui changeait. Ouais. Et puis, certains troubles du sommeil aussi, alors c'est des troubles bien particuliers, où en résumé, les gens vivent leur rêve en quelque sorte. Ils sont mobiles pendant le rêve.
Est-ce que, justement, alors une fois que la maladie est là, pour le coup, vous parliez des tremblements, mais là, pour le coup, juste expliquez-nous les grands, on va dire, les grands symptômes de Parkinson une fois que la maladie est installée. Hein.
Voilà, donc une fois qu'on est dans la phase motrice de la maladie, donc il peut y avoir du tremblement, mais il n'est pas obligatoire. Hein. Il y a
donc ça, c'est des signes moteurs, d'abord.
Voilà, ces signes, voilà. Et puis, ensuite, c'est une maladresse gestuelle, une difficulté à faire des gestes qu'on fait automatiquement sans y
penser.
Parce
qu'on a des raideurs, on a quoi dans les membres?
Il peut y avoir une certaine raideur, il peut y avoir une certaine rigidité dans les membres, des douleurs aussi qui sont assez fréquentes. Oui.
Vous parliez de signes précoces, mais est-ce que c'est un intérêt de porter le diagnostic tôt, vu que finalement on n'a pas tant de traitements curatifs? Est-ce qu'il y a un intérêt à dépister plus rapidement pour peut-être, d'ailleurs je ne sais pas, est-ce qu'on peut mieux les prendre en charge?
Alors aujourd'hui, ça n'a pas encore d'intérêt. C'est un intérêt en recherche, c'est-à-dire de bien comprendre ces phases très précoces de maladie pour développer des nouveaux traitements. Et puis, il n'est pas exclu que dans les traitements qui sont en développement, qui sont encore au stade de la recherche, on n'ait pas des choses qu'on puisse appliquer à ces stades extrêmement précoces.
Par rapport à tous les symptômes dont vous avez parlé, qu'ils soient précurseurs, c'est-à-dire une perte de goût, des petites difficultés motrices dont vous avez parlé, ou même déjà un tremblement bien installé, on consulte qui quand on pense peut-être à Parkinson? On va voir son généraliste, on court chez le neurologue, qui on va voir?
Le plus souvent, les gens consultent leur médecin traitant d'abord, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le médecin traitant fait souvent le diagnostic ou le pressent, mais préfère le faire confirmer par un neurologue, surtout si c'est un sujet relativement jeune, quelqu'un de moins de 50-60 ans, ils aiment bien avant la confirmation. Les rhumatologues nous envoient beaucoup de patients. Là, je disais qu'il y a beaucoup de douleurs, de raideurs d'épaule douloureuses qui sont des premiers signes de maladie. Les rhumatologues sont assez sensibles à ça et nous envoient aussi régulièrement des patients.
Et justement, comment est-ce que on pose formellement le diagnostic de maladie de Parkinson? Vous leur faites faire une IRM, des examens complémentaires?
Alors non, ça reste très très clinique hein, dans la grande majorité des cas.
Vous les voyez, vous les interrogez.
Simple interrogatoire et puis quelques petits tests cliniques, les voir marcher, les voir faire quelques gestes répétitifs de la main, du pied. Observer le visage nous permet, avec une très grande fiabilité, de poser le diagnostic. Après, dans les cas difficiles, on peut s'aider d'examens complémentaires.
Donc, vous n'allez pas regarder dans le cerveau de ces patients ce qui se passe. Ça, c'est pas
obligatoire.
Grand-chose aujourd'hui, c'est pas obligatoire.
En fait, les signes cliniques nous indiquent très précisément ce qui se passe dans le cerveau de ces patients.
Qu'est-ce qui se passe, par contre, quand on leur annonce ce diagnostic? Puisque bon, on sait que c'est une maladie qui n'est pas curable aujourd'hui. Quelles sont les questions qui se posent le plus au moment du diagnostic, les patients?
Oui, alors il y a un peu de situation. Il y a le patient qui tremblait, qui se doute qu'il a le Parkinson. Ouais. Donc lui, c'est plus simple. Mais il y a le patient qui ne tremblait pas. Et là, il est souvent très surpris. On encadre maintenant de plus en plus ce diagnostic dans le cadre d'une consultation d'annonce. Donc on va lui expliquer un petit peu les différentes options thérapeutiques, que c'est une maladie. On va le voir qui se traite, qui se traite bien, qui se contrôle. Il y a plein de choses à faire sur le plan préventif. Et puis ensuite, il va pouvoir discuter avec une psychologue pour envisager les conséquences sociales, professionnelles, etc. de la maladie.
Vous êtes président du comité scientifique de l'association France Parkinson, mais du coup, qu'est-ce qu'une association comme ça peut apporter aux patients, justement?
Alors, beaucoup de choses. Hein. Elle a pas mal de missions. Elle a des missions de lobbying pour que la maladie soit connue, qu'elle ait des soutiens des autorités de santé.
Bien sûr.
Il y a de l'écoute pour les patients, il y a du conseil juridique.
Et donc, quand on vient d'avoir le diagnostic, c'est intéressant d'y adhérer, on peut avoir de l'aide, hein, c'est ça?
Voilà,
vraiment.
Tout à fait. Ils ont fait en place d'ailleurs des documents qui expliquent la maladie, qui expliquent les traitements, qui sont une espèce de kit de starter de maladie. Et puis, il y a un soutien à la recherche, c'est-à-dire que l'association finance à hauteur de 1 million d'euros par an de la recherche sur la maladie de Parkinson.
Professeur Damien, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, cette émission consacrée à la maladie de Parkinson se poursuit. Nous parlerons de la prise en charge actuelle des patients. Comment les aide-t-on au quotidien à diminuer, voire à faire disparaître au moins quelques années les symptômes? Nous verrons aussi que la recherche avance avec des pistes en bonne voie. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être est de retour très vite. Juste le temps d'écouter un peu de musique. C'est One Republic avec leur titre Counting Stars.
Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
is a four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.
C'était One Republic sur Europe 1 avec leur morceau Counting Stars.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes bien sûr sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi, c'est le professeur Philippe Damier. Il est neurologue au CHU de Nantes et président du comité scientifique de l'association France Parkinson. Alors professeur, on va passer à la prise en charge des patients atteints de cette maladie, atteints par cette maladie. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui en première intention, tout de suite? J'imagine c'est d'abord des médicaments, si oui, lesquels?
Alors le traitement est symptomatique, hein. Il va consister à rapporter au cerveau du patient la dopamine qui lui manque, ou l'équivalent. Si le patient n'est pas trop gêné en début de maladie, on ne met pas forcément en place de traitement médicamenteux, hein, quand les symptômes sont mineurs. Mais dès que les symptômes sont gênants, on va initier un traitement médicamenteux avec en gros deux grandes catégories de médicaments. La dopa qui va rentrer dans le cerveau et se transformer en dopamine, ou ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques qui eux rentrent dans le cerveau, se fixent sur les récepteurs à dopamine et en miment l'effet.
Est-ce que les malades qui sont atteints de Parkinson, c'est les malades qui sont un peu plus déprimés du fait de manque de dopamine, et à l'inverse, est-ce que leur redonner de la dopamine, ça leur améliore leur humeur?
Effectivement, la dopamine est importante pour l'humeur et souvent les patients sont un peu dépressifs. Ça peut être même une circonstance de révélation de maladie et de les traiter va améliorer l'humeur. Mmh. Oui.
Est-ce que ce sont des médicaments? Ben, vous avez dit qu'on ne peut pas guérir, hein, donc j'imagine que c'est pour toute la vie, tous les jours, ça se prend sous quelle forme?
Oui, alors c'est des comprimés le plus souvent, parfois des patchs qui sont à prendre de façon quotidienne, bien sûr, puisqu'ils visent à ramener au cerveau la dopamine qui manque. Donc comme le cerveau n'en fabrique plus assez, il faut lui rapporter par d'autres moyens.
Et dans quelle mesure ces traitements sont efficaces? Parce que je crois qu'il y a des patients qui répondent bien, d'autres un peu moins bien. Quel est le pourcentage, ou je ne sais pas si on peut donner un pourcentage, en tout cas la réussite du traitement sur les symptômes?
Or, dans le cadre de la maladie de Parkinson, il va toujours y avoir une très très bonne réponse. Alors après, on peut être gêné par des effets indésirables au traitement. Hein. Tout médicament efficace a aussi potentiellement des effets secondaires en contrepartie. Et puis à côté de la maladie de Parkinson, il y a des maladies plus rares, plus graves, qui peuvent moins bien répondre au traitement médicamenteux.
Et ces médicaments, donc on va parler juste après des effets secondaires, mais ils permettent donc de retrouver quand ils sont efficaces. Au départ, en général, ça marche très bien chez ceux qui en ont besoin. Pendant combien de temps ça va permettre d'effacer complètement, de gommer les symptômes? Un an, deux ans, dix ans, je ne sais pas, en moyenne en tout cas.
Alors effectivement, en début de maladie, s'il n'y a que la maladie de Parkinson, si ce n'est pas un sujet trop âgé, on va voir disparaître tous les symptômes, tous les signes de la maladie. Et les patients vont redevenir quasi normales.
Jusqu'à quand?
Et ça va durer, bon, en moyenne, c'est 8 à 10 ans,
quand
mais
même,
c'est
d'accord.
Une moyenne. Donc chez certains patients, au bout de 2-3 ans, ça va devenir plus compliqué. Et chez d'autres, après 20 ans, ils restent toujours bien contrôlés.
Vous parliez d'effets secondaires, justement. Qu'est-ce qui est le plus fréquemment attendu quand on traite justement avec de la dopamine?
Ça dépend des patients, en fait, chez les patients. Alors, chez tous les patients, en début de traitement, il peut y avoir nausées, voire des vomissements. C'est pour ça qu'on monte progressivement le traitement. Après, chez des patients âgés, ça peut donner un peu de confusion, d'hallucination. Certains médicaments peuvent donner de la somnolence. Certains nombre d'effets indésirables possibles.
Il n'y a pas des comportements qui peuvent changer, des addictions
Avec les agonistes dopaminergiques, effectivement, c'est des médicaments qui sont psychostimulants. Et chez certains patients, ils sont trop
psychostimulants. Il y a eu quelques faits divers comme ça de patients qui avaient dépensé toutes leurs économies tout d'un coup en jouant à des jeux d'argent.
Ça peut perturber leur processus décisionnel et les pousser à une impulsivité, à jouer, à voir leur comportement sexuel se modifier, à faire des achats compulsifs. Donc tout ça maintenant, c'est bien connu. On prévient les patients, les pharmaciens sont au courant. On ne voit plus les catastrophes qu'on a pu voir par le passé.
Et si jamais ces traitements de première ligne ne marchent pas, qu'est-ce que vous pouvez proposer ensuite ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a quelque chose d'ailleurs à proposer en seconde ligne ?
Alors les traitements vont marcher. En fait, ce qui va se passer au bout de quelques années, c'est que la réponse au traitement va être moins constante dans la journée. Mmh. Les patients vont avoir des moments où le traitement marche bien, des moments où le traitement marche moins bien.
Et là, il y a
ce qu'on appelle
des
fluctuations.
Il y a des pompes qu'on veut mettre sous la peau.
Et c'est là où on va se poser la question de traitement de deuxième ligne. Alors soit avec des petites pompes qui vont administrer de façon sous-cutanée très continue le traitement, soit on a des traitements plus spectaculaires qui sont les traitements chirurgicaux avec la neurostimulation cérébrale profonde.
Et justement, qu'est-ce que c'est que cette neurostimulation cérébrale profonde ? Vous le dites comme ça un peu
c'est
à la
volée. C'est cocorico, c'est français, voilà, on est hyper fiers.
Voilà, c'est une découverte française,
c'est
magnifique.
Super.
Ouais. On se plaint toujours en France, etc. Ouais. Mais c'est une vraie innovation.
Professeur Benabid,
professeur
Benabid
et Polak, qui à Grenoble ont découvert ce traitement en deux étapes, fin des années 80 et puis 93 surtout. Donc, ça consiste à implanter des électrodes, des espèces d'aiguilles à tricoter.
C'est un peu invasif, hein, c'est dans
le... Oui, il faut faire, même si on a des super techniques de repérage, faut descendre, comme je dis aux patients, une aiguille à tricoter au milieu du cerveau. Et après, c'est connecté par un câble sous-cutané, hein, tout est internalisé, un petit stimulateur, donc ça ressemble à un pacemaker cardiaque, qui va entraîner une décharge électrique continue dans un noyau bien précis, et ça va réguler les dysfonctions de ce noyau qui sont provoquées par le manque de dopamine.
C'est très spectaculaire. Je vous invite à aller voir des vidéos justement après les poses de ce genre d'implant dans le cerveau. C'est des résultats, les patients ne tremblent plus. C'est assez spectaculaire. Un mot pour terminer quand même de la recherche. On en est où ? Est-ce qu'il y a des choses fascinantes et prometteuses qui nous attendent dans la recherche sur Parkinson ?
Oui, je crois qu'un des meilleurs espoirs aujourd'hui a trait aux immunothérapies, en quelque sorte un vaccin. Dans la maladie, il y a une protéine qui s'accumule anormalement qui s'appelle l'alpha-synucléine. Et on injecte chez les patients, c'est encore en stade de recherche, des anticorps monoclonaux pour essayer d'enlever ces protéines anormalement agrégées dans leur cerveau. Et on est en phase 2, donc en phase précoce d'essais thérapeutiques chez l'humain. Et on a quelques signaux encourageants.
Donc si la phase 2 marche, la phase 3 aussi, on imagine d'ici combien de temps peut-être pour les patients ?
D'ici 3 à 5 ans, on pourrait espérer avoir ce traitement qui permettrait de freiner l'évolution de la maladie et éviter certaines complications qu'aujourd'hui, on ne sait pas traiter.
Très bien, mais de l'espoir, on l'a compris grâce à la recherche. Merci beaucoup, professeur Damier, de nous avoir accompagnés cet après-midi. On vous souhaite bonne continuation. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les maux du quotidien ». On fera un zoom cet après-midi sur le psoriasis. Savez-vous à quoi ressemblent sur la peau les lésions liées à cette maladie ? Savez-vous qu'il y a de nouveaux traitements, des biothérapies très efficaces pour les formes les plus graves ? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. À tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, à présent, on va passer à notre séquence, les maux du quotidien. Aujourd'hui, focus sur le psoriasis. Tiens, d'ailleurs, savez-vous ce qu'est précisément cette maladie dermatologique ? Qu'est-ce qui peut bien la déclencher ? Et surtout, comment ça se soigne aujourd'hui ? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Maladie de la peau, c'est une dépigmentation, je crois, qui, je crois, est similaire au vitiligo.
Psoriasisme, j'ai entendu ça plein de fois, mais je crois que j'ai dû faire à chaque fois sans vraiment comprendre.
Ah, je pense que ça gratte, je voyais la personne se gratter un peu partout sur le corps, et voilà, donc avoir d'innombrables croûtes à la fin, et ça fait vraiment quelque chose où tu as mal pour la personne, tu sens qu'elle a mal, quoi.
D'accord, c'est un peu comme de l'eczéma peut-être ?
C'est dû soit à des allergies.
C'est dû au stress, à l'anxiété.
Il y a des gels douches spécifiques pour justement le psoriasis.
J'imagine qu'il doit y avoir de la crème, la cortisone peut-être, à base de cortisone.
Jimmy, on va reprendre du début. Le psoriasis, d'abord, c'est quoi ? Quelle est la fréquence de cette maladie dans la population française, par
exemple ? C'est une maladie inflammatoire de la peau qui évolue par poussée. Ça touche 2 à 3% de la population mondiale. Donc,
quand même.
Le monde entier est touché. Et c'est entre 1,5 et 3 millions de Français qui en sont concernés. Surtout, il y a un sous-diagnostic parce que parfois, les malades traite cette maladie
néglige,
par le mépris.
Et ouais, néglige un peu, et c'est dommage, parce qu'il y a des solutions, on va en parler. Est-ce qu'on connaît les causes de l'apparition de cette maladie ? Parce que moi, j'ai des gens dans mon entourage qui disent « Ah tiens, j'ai eu cet accident il y a telle année, et tout d'un coup, du psoriasis est sorti, ou j'ai eu un deuil, j'ai eu un choc. » Est-ce qu'on sait que si le psychologique peut déclencher ça, finalement ?
Alors oui, il peut y avoir des facteurs déclenchants, avec un stress émotionnel, de l'angoisse, mais ça peut être quelque chose qu'on va observer chez des gens qui ont une prédisposition génétique à faire ce psoriasis. Ouais. Donc il y a une part un peu héréditaire, et dans 30% des cas, on retrouve justement un terrain un peu familial.
Mmh,
on pense qu'il y a aussi des facteurs infectieux, notamment avec une découverte pendant l'adolescence ou après un épisode de rhinopharyngite classique.
Ah oui.
On peut développer la maladie. On sait que certains médicaments, comme les bêta-bloquants, des traitements contre l'hypertension artérielle qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou le lithium qu'on peut donner dans les troubles bipolaires, peuvent déclencher aussi la maladie. Donc, il y a plein de facteurs qui vont aboutir justement à cette inflammation de la peau.
Sur la peau, rapidement, Jimmy, pour faire la différence, par exemple, avec l'eczéma, qu'on connaît peut-être un peu plus, le psoriasis, ça ressemble à quoi ?
Alors, c'est des plaques qui vont être rouges, qui vont être bien délimitées, avec des petites squames qui vont être blanchâtres, qu'on va voir de façon plutôt symétrique. Ça va toucher les deux membres. On va voir au niveau des coudes, des genoux, des jambes, au niveau du dos, dans la région lombo-sacrée, donc en bas du dos. Et puis, on peut aussi en avoir dans le cuir chevelu. Ça peut même toucher les ongles.
Ah
et
oui.
Puis, dans 20 à 30% des cas, vous avez des signes articulaires avec un rhumatisme psoriasique, avec des gens qui ont des douleurs aux articulations, alors que c'est une maladie dermatologique.
Alors, comment ça se traite ? Et je crois d'ailleurs qu'il y a même du nouveau, hein, des biothérapies qui sont arrivées récemment. Qui
exactement.
Sont,
alors, on traite parce qu'on essaie d'améliorer, de contrôler la maladie, mais on ne guérit pas du psoriasis. Ça évite de faire des poussées. Alors, vous avez plusieurs lignes de traitement. On va donner dans un premier temps ce qu'on appelle des émollients pour hydrater, se débarrasser de cette couche superficielle de la peau qui a tendance à se régénérer. Donc, on va mettre un corps gras avec de la vaseline et avec un petit décapant en quelque sorte. On a recours parfois aux dermocorticoïdes. Et puis, lorsque les traitements ne marchent pas, on donne parfois des traitements à base de vitamine D sous forme locale. On a recours aussi à l'immunothérapie. On en parlait tout à l'heure. On va viser des molécules qu'on appelle les TNF. On va donner des anti-TNF qui permettent justement de contrôler la maladie. Donc, si jamais vous avez symptômes, allez voir votre médecin traitant ou le dermatologue.
Il y a plein de solutions.
Il y a plein de solutions à vous proposer.
Aucune raison de traiter ça par le mépris. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve comme tous les jours pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Sans rendez-vous et de retour très vite, restez bien avec nous cet après-midi.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La chronique sexo de Catherine Blanc, ce sera juste après un peu de musique. On va écouter une jeune chanteuse belge, c'est Iliona, avec son titre qui était sorti cet été, ça s'appelle « Moins jolie ».
C'est le jour où l'été est arrivé, le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis comme si c'était beau. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait. Solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. Mm-hmm.
C'était le troisième single d'une chanteuse belge prometteuse. C'était Liona sur Europe 1 avec Moins Jolie.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on aimerait savoir si les jeunes sont vraiment... Grande thématique, hein, aujourd'hui on a décidé, il n'y a pas de question. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment plus précoces que ceux d'hier, peut-être ?
Alors, d'abord, il faut savoir de quoi on parle quand on dit précoce. Précoce
dans qu'ils font l'amour plus tôt, plus jeune.
Voilà, donc c'est dans la compétence. Il faut comprendre que le développement psycho-affectif a besoin de son temps. Et nous faisons souvent la confusion entre leur capacité à parler de sexualité, à raconter même d'ailleurs qu'ils la vivent.
Ça, clairement, ils sont plus précoces qu'avant. Ils en parlent plus tôt.
Absolument, mais parce qu'ils sont plongés dans une société extrêmement sexualisée et qui du coup met ce sujet-là comme étant une sorte de maître étalon de la compétence à être mature. Donc ils parlent beaucoup de sexe, ils en entendent beaucoup, ils connaissent plus ou moins ce que veulent dire tous les sujets. Alors, quand je parle plus ou moins, je parle aussi des tout jeunes, hein, des prépubères et des tout jeunes pubères.
Ils en parlent parfois sans savoir même de quoi ils parlent.
Parfois, effectivement, ils emploient des mots dont ils ne connaissent absolument pas le sens, mais qu'ils emploient comme si c'était pain beurre chocolat, parce que ça permet de rentrer dans une société, de montrer qu'on est en compétence. Pour autant, ils n'en ont pas fait nécessairement l'expérience. Parce qu'il y a une différence entre la capacité à en parler et la capacité à le vivre dans son corps. Il faut un développement psycho-affectif abouti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge à proprement parler, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'âge de la capacité à arbitrer pour soi un désir, un élan, une excitation, et pas subir les propositions d'une société. Et donc, il y a un décalage, et à ce titre, ils ne sont pas plus précoces que 2-3 générations avant.
Est-ce que l'accès plus simple ou plus facile à la pornographie peut faire que justement, quand vous parlez de société hypersexualisée, ils vont se mettre à sortir des termes, des mots, des positions, des choses un peu étranges qu'on n'aurait pas fait il y a peut-être 5, 10, 15 ou même 20 ans?
Oui, alors du coup, ça les effraie parce que du coup, ils ont un catalogue important de positions, d'attitudes, de soi-disant recherches qu'ils devraient avoir ou qui devraient stimuler leur excitation. Et donc, évidemment que entre le poupon qu'ils étaient il y a 4 matins et tout d'un coup, le saut dans le grand bain de la sexualité avec tout proposé au même niveau, y compris des choses que l'on pourrait concevoir comme une certaine perversion, eh bien, évidemment, c'est extrêmement anxiogène. Et donc, c'est ce qui fait qu'en réalité, ils ne passent pas à l'acte. Ils attendent, ils progressent petit à petit. Ils ont peur d'être les derniers, bien sûr. Donc, quand les copains, les copines s'y plongent, ils ont peur d'être les laissés pour compte. Donc, ça, souvent, ça provoque un peu plus d'accélération de leur propre mouvement, sauf ceux qui ont plus de tempérament, plus de caractère, qui ont été aussi éduqués à vivre à leur rythme. Eh bien, du coup, cela résiste un peu plus pour être en leur temps et surtout dans une relation qui est adéquate.
Est-ce que parmi les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes prépubères ou pubères ou même un peu plus grands, est-ce qu'il y a une différence entre filles et garçons ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui s'est un peu lissé ? Ils en parlent autant, ils sont aussi précoces, donc pas, vous avez dit qu'ils n'étaient pas en tout cas dans la pratique, mais est-ce qu'entre filles et garçons, finalement, c'est un peu la même chose aujourd'hui ?
Alors, les filles en parlent beaucoup plus qu'elles n'en parlaient parce qu'elles sont plus autorisées. À ce titre, on pourrait concevoir que c'est plutôt une bonne nouvelle,
oui,
puisqu'elles
ne
sont pas enfermées dans une pudibonderie.
Mais au moins, il n'y a pas de différence entre les deux. Hein.
Voilà, sauf que du coup, elles subissent aussi être justement au niveau des garçons aujourd'hui. Eh bien, elles subissent aussi l'obligation, le devoir de performance qu'elles n'avaient pas avant. Mmh. Parce qu'avant, elles étaient protégées d'une certaine manière, y compris par « tu ne feras pas l'amour avant le mariage ». Donc, on pourrait dire que c'était horrible puisqu'on n'accueillait pas le désir, l'élan, l'excitation féminine, bien sûr. Mais ceci étant, ça leur donnait un sas de sécurité qui leur permettait de prendre le temps de leurs élans énamourés, quand évidemment elles avaient le droit de choisir leur mari, bien sûr, mais de leurs élans énamourés faisant naître leur désir.
Et comment est-ce qu'on réagit lorsqu'un enfant emploie des termes qui ne sont pas en rapport avec son âge ? Est-ce qu'on doit s'interroger, le gronder,
ouais.
C'est vrai qu'on est souvent un peu désarmés, nous, parents.
Complètement, ouais.
Alors, le gronder, non, c'est d'abord essayer de comprendre d'où vient ce terme. Avant de gronder, les enfants, on ne peut pas les accuser d'avoir...
Quand on entend des drôles de termes, ça peut un peu surprendre quand même.
Ça peut surprendre, mais on ne peut pas les gronder d'employés, puisque comme ce sont des mots qu'ils ont pêchés dans la société dans laquelle ils évoluent, sans trop comprendre quel est le sens de ces mots, eh bien, je crois que la meilleure des choses, c'est de savoir qu'est-ce que tu as entendu, est-ce que tu sais ce que c'est, est-ce que tu crois que c'est de ton âge, est-ce que tu tu crois que tu es en adéquation avec cela. C'est au contraire, je trouve, l'occasion pour les parents d'aborder le sujet de la sexualité et de faire leur boulot d'éducateur, parce que c'est aux parents de faire d'avoir ce rôle d'éducateur.
Merci beaucoup,
et pas
Catherine.
La pornographie, on l'aura bien compris.
Bah oui, évidemment. Merci Catherine. Merci pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Stéphane Bern, oui. Vous savez, a échappé à de nombreux attentats dans sa vie.
Oula.
Mais aujourd'hui, on vous parle de ces personnages de l'histoire qui l'ont échappé belle pour de bon.
Oui, la reine Victoria, 8 tentatives quand même.
Pas mal, mais vous avez encore mieux.
Oui, alors Fidel Castro, combien on en a recensé 634 dans
634.
Le livre Guinness des records. Oui, oui, parce que la CIA lui en voulait un petit peu. Et vous avez trouvé quelqu'un...
Plus proche de nous, il n'a réchappé qu'à une seule tentative de meurtre, mais d'un serial killer suédois, c'est le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic, qui, vous allez voir, s'en est sorti, c'est normal. Il se considère comme un dieu, donc c'est normal qu'il réchappe de cet attentat.
Tout en simplicité.
Voilà, Dieu est éternel.
Et bien, écoutez, on a hâte de vous entendre avec tous ces récits qui s'annoncent passionnants. Merci beaucoup messieurs. Je vous souhaite une belle émission et vous aussi, surtout, n'hésitez pas à rester et profiter de cette belle émission.